Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe. On est très heureux de vous retrouver en ce lundi matin. On remercie chaudement Fanny Marceau qui a gardé la maison avec talent et qui vous a accompagné toute la semaine dernière.
On espère que vous allez bien, le réveil est toujours aussi matinal. Bon courage à Mylève Taux. Et on vous propose, tiens, pour la peine, un petit voyage dans le passé.
Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service.
J'appuie sur envoi. Voilà. Regarde maman, tout ce qu'on peut faire comme étude, même quand on est nul en maths. Il n'y a vraiment pas de quoi pleurer.
Votre Minitel, il ne demande qu'à vous rendre service.
Le Minitel qui rend service.
Même le son est passé.
Et qui est débarrassé de sa petite couche de poussière, l'armoire en chaîne massive dans la maison de famille, les fauteuils en rotin au fond du grenier ou les jeux Super Nintendo, Super NES rangés à la cave, tous retrouvent leur jeunesse d'antan.
Démodé, dites-vous, mais pas du tout. Ce qui était kitsch hier est branché aujourd'hui.
Et les chasseurs de trésors aguerris qui organisent leur week-end en fonction des brocantes le savent par cœur.
Tout comme notre invité ce matin, Laurent Journeau, est le fondateur du salon itinérant, le salon du vintage. On parlera Formica, téléphone à cadran, Polaroid et cassettes audio avec lui à 5h45. Dans l'actualité ce lundi 9 mai, Julien.
Le jour de la victoire sur les nazis, nous on la célèbre le 8. Les Russes, eux, c'est le 9. Et comme chaque année, on va assister à un défilé militaire sur la place Rouge à Moscou.
Défilé qui intervient alors que l'armée russe poursuit son offensive en Ukraine.
Oui, elle est d'ailleurs sur le point de prendre totalement Mariupol après de longues semaines de bombardements. Une invasion laborieuse, ratée, diront certains au regard des moyens engagés. Voilà pourquoi toutes les capitales occidentales vont attentivement écouter ce matin le discours de Vladimir Poutine. Va-t-il intensifier l'escalade verbale et militaire, voire déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine et mettre ainsi fin à cette mascarade d'opération spéciale? Autant de questions que l'on posera à 6h10 au géopolitologue Cyril Brett, grand spécialiste de la Russie. Et puis votre partition pour conclure cette matinale, Omblin.
Il fêtera ses 80 ans à Bobino jeudi.
Attention mesdames et messieurs, c'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps.
Michel Fugain et son Big Bazar dans la partition à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Alors vous nous en parlez depuis la semaine dernière. Ce lundi marque le début d'une période chaude.
Oui, et ça va être une longue période très chaude. On n'est pas sur un pic de chaleur. Là, on est vraiment sur des températures très élevées qui vont s'installer. Nous y sommes, ça y est. On a un avant-goût d'été puisqu'on a un puissant anticyclone qui nous protège du mauvais temps, des perturbations et qui fait grimper les températures. Donc dès ce matin, sur les trois quarts du pays, le jour va se lever avec un ciel bien dégagé et puis déjà un beau soleil. Attention ce matin sur les côtes de la Manche, on a quelques cumulus qui traînent encore, mais enfin rien de très méchant. Sur le sud de l'Aquitaine, entre les Landes et les Pyrénées, là aussi on a quelques grisailles. Et puis du côté des côtes varoises, des entrées maritimes. Cet après-midi, c'est en montagne que le temps va nettement se dégrader. Hein. Pyrénées, Alpes, Massif central, Jura, à Corse, vous êtes tous concernés, ça va péter. Voilà, les orages vont éclater sur les montagnes, des pluies qui risquent aussi de déborder en plaine. Rien de très inquiétant en termes de cumul d'eau. Et ce matin, il fait déjà doux. 6 à Saint-Etienne actuellement, 10 à Nancy au Mans, 13 à Paris, 16 à Perpignan.
Merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et à la une de ce lundi, à quoi va ressembler le défilé militaire à Moscou? 9 mai, date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Russie. Objectif de Vladimir Poutine en plein conflit ukrainien. Montrer la force de son armée au monde entier. Quelle réalité? Réponse dans ce journal. Face à ça, Moscou, l'Europe veut montrer aussi les muscles. Premier discours européen d'Emmanuel Macron en déplacement à Strasbourg. Puis photo du couple franco-allemand aux côtés d'Olaf Scholz. Et puis ça sent l'été, comme l'a dit à l'instant Anissa Haddadi. Envie de grandes vacances, de voyager autour du monde. Problème, l'obtention des passeports est un véritable casse-tête. On vous explique tout dans ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté ce matin par Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour à tous. Une conférence de presse improvisée et surréaliste hier, s'étant en plein cœur de la Syrie d'Azovstal en Ukraine, dans un bunker enfoui à 30 mètres de profondeur, que deux militaires, la barbe hirsute et le teint pâle, ont répondu en visio aux questions d'une centaine de journalistes. Dans cette usine se cachent encore les derniers résistants à l'armée russe dans la ville portuaire du sud de l'Ukraine, Mariupol. Depuis samedi, toutes les femmes et les enfants ont été évacués de cette zone. Ne reste plus plus qu'une centaine de soldats cachés dans des galeries souterraines avec encore quelques vivres et des munitions. Ils ont décidé de se battre jusqu'au bout, explique l'officier des renseignements, Ilya Samoïlenko.
Ces deux derniers mois, nous avons montré au monde ce que c'était de faire l'impossible. C'est devenu une routine pour nous. Notre objectif, c'est de défendre nos positions. Et nous pouvons encore continuer à le faire. Nous allons continuer à le faire. Nous, tous les militaires de la garnison de Mariupol, nous avons été témoins des crimes de guerre commis par la Russie, par l'armée russe. Nous en sommes les témoins. Capituler n'est pas une option car nos vies n'intéressent pas la Russie. Nous laisser en vie leur importe peu.
Une prise de parole qui intervient la veille d'un moment important dans cette guerre pour la Russie de Vladimir Poutine.
Oui, le 9 mai marque en Russie la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés face aux nazis, appelée le jour de la victoire. Une date très importante, surtout dans ce contexte si particulier. Vladimir Poutine compte y annoncer des avancées significatives en Ukraine. Tout ça devant un défilé de 11 000 soldats, 131 unités de matériel et 77 avions, selon une agence de presse russe. C'est loin de la démonstration de force attendue. Finalement, l'événement serait plutôt ordinaire en termes de volume, Nicolas Tonev.
Oui, les Russes et le monde verront défiler, comme chaque année, les très impressionnants véhicules lanceurs de missiles intercontinentaux. La Russie exhibera aussi ses chars les plus récents, en petit nombre, hein, car seulement quelques dizaines auraient été construits. Selon un spécialiste américain du magazine Forbes, les tanks en service les plus nombreux ne seront pas là, car ils sont sur le terrain en Ukraine. Et en fait, c'est dans les airs que le Kremlin va chercher à impressionner, symboliquement avec un Z dessiné dans le ciel, en patrouille serrée par les MiG les plus récents de l'aviation russe. Et puis, aussi avec la présence de cet avion de commandement en cas de guerre nucléaire, l'Ilyushin 80. Le Kremlin en a fait beaucoup pour le décrire comme l'avion de l'apocalypse, mais en fait, cet Ilyushin 80 n'emporte pas d'armement proprement dit. Ce n'est qu'un poste de commandement volant capable de résister à une attaque nucléaire, un avion comme en disposent aussi les États-Unis. Et le plus important dans ce défilé ne sera donc pas à voir, mais à entendre et à écouter très attentivement avec les propos attendus de Vladimir Poutine.
Nicolas Tonev pour Europe 1.
Une célébration qui couvre la Russie et les sacrifices historiques de son peuple de honte, ce sont les propos de Volodymyr Zelensky.
Oui, le président ukrainien qui s'est aussi exprimé pendant un sommet du G7 hier, il a annoncé une nouvelle frappe russe sur une école de l'Est de l'Ukraine, un bombardement qui aurait tué 60 civils. Le G7 a assuré de nouveau son soutien, s'est engagé à interdire ou supprimer progressivement les importations du pétrole russe.
Le 9 mai, date clé pour la Russie, c'est aussi le jour choisi par l'Europe pour montrer son union.
Oui, pendant que Vladimir Poutine sera sur la place rouge, Emmanuel Macron, qui a commémoré le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale hier, se déplacera à Strasbourg pour la journée de l'Europe. Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Un premier passage au Parlement européen, puis direction Berlin pour le président de la République.
Oui, Emmanuel Macron compte bien une nouvelle fois endosser le costume de leader de l'Union. À la mi-journée, au Parlement de Strasbourg, il prononcera son premier discours européen depuis le début de la guerre en Ukraine. L'occasion de dessiner un autre 9 mai que celui de Vladimir Poutine, car deux modèles s'affirmeront face à face aujourd'hui, analyse un conseiller du président. Et face aux images de la démonstration de force russe, Emmanuel Macron s'apprête à répondre par les valeurs. Le 9 mai à Strasbourg sera celui de l'affirmation de la force des démocraties libérales, de leur pluralité et de la liberté d'expression des citoyens, insiste-t-on du côté de l'Élysée. Et pour mieux afficher l'unité européenne et la solidité du couple franco-allemand, le chef de l'État s'envolera dans la foulée pour Berlin pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection. Au programme, entretien de travail, dîner avec le chancelier Olaf Scholz et surtout une conférence de presse où les deux dirigeants s'exprimeront côte à côte. Une autre réponse à Vladimir Poutine en ce 9 mai.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Emmanuel Macron qui reprend donc ses déplacements à travers l'Europe. De nombreux Français voudraient pouvoir en faire de même pour les prochaines vacances, mais certains vont devoir faire une croix dessus.
Oui, la faute au délai trop long pour obtenir son passeport ou sa carte d'identité. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin a annoncé des moyens supplémentaires pour réduire de 30% ce temps d'attente. En France, pourtant, c'est l'embouteillage. Aucune date de rendez-vous n'est disponible à Paris. Rien avant début octobre à Libourne, dans le sud-ouest. Il faut s'armer de patience pour obtenir un rendez-vous, comme l'a constaté Caroline Baudry devant l'un des 18 services titres d'identité de Paris.
J'ai fait la mairie du 18e, du 17e. J'ai fait la mairie du 7e.
Et celle du 15e arrondissement de Paris. Brette en sort, descend les marches agacées. Elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous pour renouveler le passeport de sa fille de 9 ans.
Depuis janvier, j'essaye. On veut partir en Afrique pendant les grandes vacances. On va tout annuler à cause de ça. Je ne sais pas comment les autres ils ont pu faire pour avoir des renouveaux.
En écrivant directement à son maire, répond Jean-Loup, 72 ans, carte d'identité tout juste récupérée.
J'ai dit qu'après remplir le formulaire sur ordinateur, c'était inaccessible aux handicapés visuels. Et deux, que les délais d'attente n'étaient pas admissibles pour un service public.
Pour éviter 8 mois d'attente à Paris, Martine, qui l'accompagne, a carrément déposé son dossier à 75 km de là.
À Vernon. En Alade, c'est ça, à la campagne dans l'Oise, où on a accepté de me prendre le lendemain. Et en 8 jours, j'ai eu ma carte d'identité et mon passeport.
L'Agence nationale des titres sécurisés promet un retour à la normale cet été, grâce aux 160 nouvelles recrues notamment. En attendant, elle rappelle que les passeports et pièces d'identité périmées depuis moins de 5 ans sont acceptés pour passer des examens et le permis de conduire.
Caroline Baudry pour Europe 1.
Paris, où le tennis féminin fait son grand retour avec un tout nouveau tournoi, le Trophée Lagardère.
Oui, avec quelques-unes des meilleures joueuses françaises sur le court. Une préparation idéale avant Roland-Garros pour cette première édition. Colin Amgral.
Cela faisait 8 ans que le circuit WTA n'avait pas mis les pieds en région parisienne. À une dizaine de jours de Roland-Garros, le Trophée Lagardère fait office d'avant-goût pour Kristina Mladenovic, numéro 5 française.
Non, c'est la porte à côté et c'est vraiment la préparation rêvée, idéale. On joue avec les balles de Roland, les terres sont top et ça rend les choses encore plus performantes, on va dire.
Avant d'attirer les têtes d'affiche du tennis féminin, le Trophée Lagardère compte d'abord aider le tennis français à se développer auprès des jeunes générations, comme l'explique l'ancienne joueuse Stéphanie Cohen-Aloro, directrice du tournoi.
Tous les jours, il y aura des classes de la ville de Paris qui vont venir faire une initiation tennis. Ils vont pique-niquer ici, ils vont voir les matchs. On a des tables rondes sur différents sujets comme le tennis santé, toutes sortes de harcèlement dans le milieu sportif. Donc voilà, c'est des sujets qui sont importants et on profite aussi de ce tournoi pour parler de tout ça.
Ce lundi, 8 Françaises seront sur les courts. L'achat des places se fait, lui, à partir de 10 euros.
Colin Amgral du service des sports, et j'ajoute que le Trophée Lagardère est organisé par le groupe du même nom qui est le propriétaire de votre radio Europe 1.
Le tennis qui a trouvé son nouveau roi dans le tournoi masculin, Carlos Alcaraz, l'Espagnol qui a battu coup sur coup Rafael Nadal et Novak Djokovic, a remporté le tournoi de Madrid hier face à Alexander Zverev.
Et c'est pas la même forme affichée hier soir par le PSG en Ligue 1.
Les Parisiens une nouvelle fois accrochés en championnat par 3 de buts partout, troisième match nul de suite pour les champions qui sont au ralenti ces derniers temps.
Et lui n'est pas au ralenti, Max Verstappen.
Le pilote de Red Bull, vainqueur du Grand Prix de Miami cette nuit. Il a devancé son grand rival cette saison, Charles Leclerc et sa Ferrari. Premier français, Esteban Ocon termine 8e.
Merci beaucoup pour ce journal, Johan Tritz.
Il est 5h09 et on passe à présent aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne et mon pari gagnant sera le 202 Rimsky. Dans cette course où tous les chevaux seront à vendre au plus offrant après l'arrivée, c'est lui qui possède assurément les meilleures performances, ce qui lui confère ici, face à ses 9 adversaires du jour, la première chance théorique. Présenté pour la première fois dans cette catégorie, il devrait pouvoir d'emblée s'imposer. Notez bien, pour cet après-midi à Compiègne, réunion 1, dans la deuxième course, le numéro 2, Rimsky.
Le numéro 2, c'est noté, merci beaucoup Thierry Léger, et à tout à l'heure pour vos pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil, c'est le pressing du lundi et l'équipe est au complet avec Martin Lange. Bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, ravi de vous retrouver. Bonjour
ravi
à tous.
De vous retrouver Martin après ces quelques jours de repos. On commence avec vos journaux dont les unes sont bardées d'engins menaçants et dégradés au garde à vous. Des unes, vous l'aurez compris, consacrées pour la plupart au défilé militaire qui va avoir lieu dans la matinée à Moscou. Poutine affiche sa force et enrôle l'histoire, titre Le Figaro à l'occasion de ces commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La parade des faux-semblants, ajoute Libération. En Russie, l'histoire, nerf de la guerre, écrit Lacroix. Et la guerre en Ukraine, justement, elle étale une nouvelle fois ses ravages en une du Parisien aujourd'hui en France. L'école martyre, titre Le Quotidien, après l'annonce par Volodymyr Zelensky de la mort de 60 civils qui avaient trouvé refuge dans ce bâtiment bombardé samedi par les Russes. Voilà pour les unes, Martin. On commence avec vous. Pour une fois, quel article avez-vous sélectionné ce matin ?
Oui, avec un air que vous connaissez tous.
Ah oui, là oui.
With or Without You, un célèbre tube du groupe irlandais U2 en version acoustique évidemment, puisque Bono, le leader du groupe, et son guitariste The Edge ont donné hier un concert surprise. Où ça ? Eh bien dans le métro de Kiev. Invités par le président Volodymyr Zelensky, les deux stars ont voulu marquer leur soutien au peuple ukrainien, mais aussi leur opposition à l'invasion russe. « Vous vous battez pour nous tous qui aimons la liberté », a déclaré le chanteur entre deux morceaux. Une représentation à plusieurs dizaines de mètres sous terre, alors que les sirènes anti-aériennes retentissaient dans la capitale ukrainienne et que les combats continuent de faire rage dans l'est du pays. Les deux musiciens ont aussi repris « Stand by me »,« Stand by Ukraine », avec un soldat revenu du front. Ils étaient une poignée à assister à cette performance diffusée sur les chaînes de télévision du pays ainsi que sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que Bono et The Edge affichent leur soutien à l'Ukraine. Il y a quelques semaines, ils ont composé ensemble un morceau inédit, Walk on Ukraine, une ode appuyée au courage et au patriotisme des Ukrainiens. Alors c'est moins acoustique, hein, cette fois c'est enregistré en studio. Lève-toi pour la liberté, c'est le plus grand acte de tous. Ce que vous avez, ils ne peuvent pas le voler. Voilà quelques extraits. Bono et The Edge s'ajoutent à une longue liste d'artistes qui se sont engagés pour l'Ukraine. Sean Penn, Angelina Jolie ou encore côté français JR, qui a réalisé une grande fresque dans Lviv au mois de mars. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine s'apprête lui à mettre en scène la puissance russe lors d'un immense défilé militaire aujourd'hui. Bono et The Edge de U2 se produisent dans le métro de Kiev. C'est sur le site du Figaro.
Oui, ce sera moins mélodique,
j'imagine.
Ce matin, sur la place Rouge à Moscou. Merci beaucoup, Martin. Omblin, je me tourne vers vous. Quel article avez-vous sélectionné ?
Si vous êtes allé au cinéma dernièrement, vous avez peut-être eu la surprise de voir projeter sur grand écran la bande-annonce d'Avatar 2. Et pour l'occasion, on vous a prêté des lunettes. Forcément. Avatar, ça se regarde en 3D et Le Parisien aujourd'hui en France se demande si le film événement de James Cameron va relancer la technologie annoncée au départ comme l'avenir du cinéma. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la 3D, bah, elle a fait pchit. Et pourtant, James Cameron, avec son premier Avatar sorti en 2009, nous a fait miroiter une nouvelle expérience cinéma de plus en plus folle. Les sensations d'un parc d'attractions au bout du nez, hein, à portée de monture. La 3D, une avancée majeure du 7e art en France. Il y a 10 ans, on est nombreux à s'être équipés. Vous savez où elles sont, vous, les lunettes 3D ? Vous les avez rangées quelque part, non ?
Je pense qu'elles ont fini la poubelle.
Moi, c'était en carton.
C'était
un œil rouge et un œil bleu, non ?
C'est
pas
ça. Vous n'aviez pas investi dans du plastique ?
Non, à l'époque, en Haute-Savoie, il y avait du carton.
D'accord. Bon, en tout cas, tous ont voulu marcher dans les pas de James Cameron. Le tout Hollywood s'est mis à la 3D. On nous promettait d'ailleurs du tout 3D dans les salles obscures, mais pas seulement, à la maison aussi. Les fabricants de télévision et de lecteurs Blu-ray n'ont pas voulu rater le coche. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce rétro-pédalage général ? Parce que la 3D, c'est cher. Les films sont chers à fabriquer ou à transformer en 3D en post-production. Le prix des séances au cinéma, les Blu-ray 3D, c'était quand même 15 euros plus cher qu'un DVD classique.
Oui, alors, puis il faut la télé qui va avec aussi.
Voilà, alors je ne parle pas du téléviseur. Et puis elles sont encombrantes, ces lunettes sur le nez. Elles sont parfois franchement trop lourdes, hein, surtout pour les petits bouts de 3 ans. Parlez-en à ceux.
Puis ça donne la nausée aussi.
À certains, oui, en plus, il y a des médecins qui ont alerté sur la dangerosité possible de la 3D. Et puis, quand on porte déjà des lunettes, c'est quand même un petit peu galère. On a l'impression d'avoir plusieurs couches.
Ouais, pour une soirée romantique, c'est pas terrible. Hein.
Non, c'est pas génial. Oui, alors, je ne parle pas du look. Ça, c'est comme les chaussures au bowling. C'est no comment. Pourquoi la 3D est partie aussi vite qu'elle est arrivée ? Eh bien, parce que la technologie avance également. Ça, c'est l'autre grande raison. Les effets spéciaux en 2D et la qualité de l'image ont considérablement évolué en 10 ans, donc plus besoin de 3D finalement. Alors le cinéma 3D n'est pas non plus complètement enterré, puisque les studios Marvel y croient encore dur comme fer. Ils nous prédisent de futures expériences au cinéma décoiffantes. James Cameron aussi, puisque Avatar 2 sortira en 3D le 14 décembre prochain. Alors va-t-on rechausser ces fameuses lunettes rouges, un œil bleu, c'est ça ? Dans Le Parisien aujourd'hui en France.
On verra bien.
On a hâte, en tout cas.
Ouais.
De voir Avatar 2, ça c'est sûr.
Exactement.
J'ai choisi, mes amis, pour ma part, un article de La Croix qui nous emmène à Cavignac, un charmant petit village du nord de la Gironde dont la mairie a la particularité d'avoir son propre domaine viticole. 25 hectares de vignes qu'elle exploite directement en régie municipale. Ces terres et les précieux raisins qui y poussent appartenaient il y a quelques années à un certain Yves Courpon, un enfant de Cavignac très attaché à l'idée que son vin lui survive et surtout qu'aucun promoteur immobilier ne puisse faire pousser d'horribles immeubles sur ses vignes. Voilà pourquoi ce célibataire sans enfant a en toute discrétion et sans en informer personne organisé sa succession en conséquence. Et c'est ainsi qu'à sa mort, le 27 janvier 2017, le notaire a appris au maire que son village héritait de la majeure partie des biens d'Yves Courpon, au premier rang desquels toutes ses terres, 60 hectares dont 25 de vignes, 6 maisons à Cavignac, sans oublier un immeuble en plein centre historique de Bordeaux. Un très joli legs, estimé à 4 millions d'euros, qui a non seulement provoqué la stupéfaction, on le comprend, des élus locaux, mais aussi des neveux d'Yves Courpon qui s'attendaient à être les seuls bénéficiaires du testament. Ils n'ont reçu qu'au final que le tiers de la fortune de leur oncle, des placements financiers et des liquidités. Ils ont été abasourdis dans un premier temps, explique le maire de Cavignac, mais cela s'est finalement bien passé car ils auraient dû tout revendre pour s'acquitter des frais de succession. Des frais qui ont grandement inquiété le maire de l'époque qui est allé jusqu'à écrire à Bercy, au ministère des Finances, pour savoir combien allait être taxée la transmission de ce patrimoine. Car si la loi prévoit que les biens légués à une commune sont exonérés de droits de succession, cela ne concerne pas les activités lucratives. Or, en mémoire de son généreux donateur, le conseil municipal de Cavignac avait d'ores et déjà décidé de faire perdurer l'activité viticole et donc de vendre le vin produit au domaine. Résultat, la commune a dû s'acquitter d'environ 8% de la totalité de l'héritage, soit 289 000 euros, une somme conséquente pour un village de 2000 habitants. Cet argent, la mairie l'a trouvé en écoulant les hectolitres de vin stockés dans les caves du domaine, mais surtout en vendant aux enchères l'immeuble de Bordeaux, ce qui a permis d'engranger un joli chèque de 3,3 millions d'euros. Une somme qui a été investie dans le domaine, notamment pour financer sa conversion à l'agriculture biologique. 2022 sera d'ailleurs l'année de la toute première cuvée bio. Les vignes et le chai d'un agriculteur voisin partant à la retraite ont été rachetés et une régie agricole a été créée pour gérer tout ça, la production, régie qui aujourd'hui emploie tout de même 4 personnes. Mais ce n'est pas tout. La mairie est allée encore plus loin en ajoutant une activité maraîchère sur 5000 m2. Des légumes bio et locaux sont proposés donc aux habitants en vente directe, mais aussi via la cantine scolaire. Des investissements bien sentis qui, doublés d'une gestion rigoureuse, permettent à la régie d'être légèrement excédentaire et aux habitants de s'enorgueillir d'habiter un village dont les vignes bénéficient à la collectivité. Le village de Cavignac fait fructifier cette terre héritée. C'est un joli reportage à lire ce matin dans La Croix.
Faudra goûter.
Exactement.
Ah bah oui, bah, on demande à la mairie de nous envoyer quelques bouteilles.
À consommer avec modération. Merci beaucoup, Julien. Merci, Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres, Johan Tritz.
Premier déplacement européen pour Emmanuel Macron depuis sa réélection. Le président de la République en déplacement à Strasbourg au Parlement européen, puis à Berlin pour rencontrer Olaf Scholz. Objectif, montrer l'union de l'Europe face à la Russie de Poutine. Car le 9 mai marque aussi en Russie la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des alliés face aux nazis. Appelé le jour de la victoire, une date très importante pour Vladimir Poutine qui veut faire des annonces fortes dans le conflit ukrainien. Un défilé est prévu sur la place Rouge avec des milliers de soldats. Une célébration qui couvre la Russie et les sacrifices historiques de son peuple de honte, selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui s'est aussi exprimé pendant un sommet du G7 hier. Il a annoncé une nouvelle frappe russe sur une école de l'Est de l'Ukraine, un bombardement qui aurait tué 60 civils. Le G7 a assuré de nouveau son soutien et s'est engagé à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe. Et en Formule 1, cette nuit, Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Miami devant Charles Leclerc.
Allez, on ouvre grand ses oreilles pour les initiatives en France, la chronique de celles et ceux qui innovent.
Bonjour Mathieu de Bonnet.
Bonjour Julien Pierce, enchanté.
Merci beaucoup, enchanté, merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le président de TSE, une entreprise niçoise spécialisée dans le photovoltaïque et vous venez de lancer une expérimentation inédite avec la construction d'une centrale agrivoltaïque. Qu'est-ce que c'est précisément? Expliquez-nous.
Écoutez, une centrale agri-photovoltaïque, c'est très certainement l'une des réponses aux grands défis auxquels fait face l'Europe et à la fois la France. C'est-à-dire comment parvient-on à développer beaucoup d'énergies renouvelables, et notamment d'énergie solaire. Sur quel foncier va-t-on développer ces futures grandes capacités dont on a besoin ? Le foncier le plus disponible, c'est le foncier agricole. Comment y va-t-on ? On y va en essayant de... C'est qui a été notre orientation stratégique. On y va en essayant de produire le meilleur de l'énergie solaire avec le meilleur de la culture.
Alors, pour que nos auditeurs visualisent bien, ce sont des panneaux solaires en suspension grâce à des câbles et des pylônes, le tout au-dessus d'un champ, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. L'idée, en fait, c'est de réduire au maximum, je dirais, l'occupation du sol. Donc, on a un système extrêmement léger, autoporté, un petit peu sur le, je dirais, le même type que la technologie des télésièges. Grande portée entre poteaux, 27 mètres. Donc, si je peux vous donner une image, prenez un terrain de football, vous mettez uniquement que 5 poteaux sur la longueur et vous tirez un câble et vous venez poser les panneaux sur ces câbles.
Tout ça a été pensé pour ne pas entraver l'agriculteur avec ses grosses machines et notamment ses tracteurs.
Exactement. L'idée, en fait, c'est de pouvoir conserver la même pratique culturelle, le même usage du sol, que ce soit avec les dernières technologies de tracteurs qui sont aujourd'hui très très hauts, ainsi que les moissonneuses batteuses qui atteignent des hauteurs de 5 mètres, ou des grandes épandeuses avec des largeurs de bras totales de 24 mètres. Donc là, toutes les machines agricoles peuvent continuer à circuler et à être utilisées par l'agriculteur.
Quels avantages a votre système pour les cultures qui se trouvent en dessous ?
Alors, l'avantage principal, c'est deux choses. C'est la maîtrise de l'évapotranspiration. Donc, c'est-à-dire que entre le sol et les panneaux solaires, on va garder un espèce de petit coussin d'humidité dans lequel les plantes vont parfaitement s'épanouir, mieux qu'avec une irradiance directe, notamment lorsqu'on arrive sur les mois qui sont chauds, juin, juillet. Donc ça, c'est la première chose. La maîtrise de l'évapotranspiration. Et le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que lorsqu'on réduit un petit peu parce que vous avez les panneaux qui vont être au-dessus, vous réduisez l'irradiance directe, donc le rayonnement direct du soleil sur la plante. Mais en fait, vous permettez à la plante de prolonger son cycle de photosynthèse, donc de prolonger son cycle de pousse, et par conséquent également, sa facilité ou ça a capté du carbone, du CO2.
Donc, en fait, vous créez une sorte de canopée artificielle.
Exactement, c'était exactement ça. On l'appelait la canopée agri-photovoltaïque. Donc, réduction de l'irradiance, maintien d'un petit coussin d'humidité et prolongation de la photosynthèse. Exactement comme les canopées en Amazonie à l'époque.
Et tous ces bénéfices, vous êtes donc en train de les vérifier à l'aide de l'expérimentation que vous venez de lancer. Vous en avez d'autres qui sont en cours ? Ça va être le seul site en Haute-Saône ou vous avez d'autres canopées artificielles que vous allez monter ?
Alors, on est parti sur un programme très ambitieux en nombre de canopées. On est parti sur une vingtaine de canopées qu'on va construire entre 2022, 2023, 2024. L'idée, c'est d'aller tester un très grand nombre de variétés de cultures différentes, du soja, du blé, des protéines végétales, des orges d'hiver. Et ça, partout sur le territoire national, parce que les climats, les pratiques culturelles sont différentes. Donc voilà, un programme très ambitieux, sans doute l'un des plus ambitieux aujourd'hui au monde, en partenariat avec l'École d'agronomie d'ingénieurs de Purpan et l'INRAE également, qui va chapeauter tout l'aspect scientifique de cet ambitieux programme.
Les surfaces agricoles, c'est devenu un peu le dernier espace où le photovoltaïque peut prospérer ?
Écoutez, probablement, pour nous, il y a deux possibilités d'aller effectivement développer du solaire sur les surfaces agricoles, à condition bien évidemment que l'idée c'est pas d'y mettre de l'énergie et pour je dirais d'enlever le sol agricole la capacité de produire de l'alimentation, que ce soit pour l'homme ou pour les animaux. Donc ça c'est le premier défi. Et puis le deuxième réservoir potentiel, c'est ce qu'on appelle les zones à faibles enjeux environnementaux, sur lesquelles on est capable, en plus du photovoltaïque, donc de l'énergie solaire, d'aller redévelopper des programmes ambitieux de redéploiement de la biodiversité.
Et l'électricité qui est produite par les panneaux solaires dans cette centrale agri-photovoltaïque, elle est injectée intégralement dans le réseau ou l'agriculteur peut en consommer une partie ?
Alors, l'agriculteur pourra très certainement en consommer une partie ou des regroupements d'agriculteurs. Ce qu'il y a de formidable dans l'énergie solaire, c'est que c'est une énergie des territoires. Vous venez la mettre sur une exploitation, vous venez la mettre dans un département. Donc quand vous regroupez un certain nombre d'installations dans un département, vous remettez au sein du territoire l'énergie, au cœur du territoire. et celle-ci, tout le monde peut se la partager.
Dernière question, Mathieu Debonnet. Est-ce que le système de pylônes et de câbles qui forment, on l'a bien compris, l'armature de votre installation, est-ce que tout ça ne pourrait pas servir également à l'arrosage des cultures, un arrosage beaucoup plus fin et précis que les grands canons à eau que l'on voit régulièrement en action ?
Bien évidemment, ça c'est la seconde partie de notre protocole d'expérimentation. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un défi également de gestion de l'eau. Donc l'idée, c'est d'aller équiper ces canopées de systèmes d'irrigation et d'arriver à des systèmes absolument optimaux, comme les Pays-Bas l'ont fait il y a une trentaine d'années avec les serres, ou l'agriculture israélienne, qui est aujourd'hui l'une des plus en pointe sur l'optimisation de l'irrigation, pour aller jusqu'à probablement des économies d'eau d'entre 30 à 50%.
Merci beaucoup, Mathieu Debonnet, de nous avoir présenté TSE et sa centrale agri-photovoltaïque. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup, bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue si vous arrivez juste sur Europe 1, dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamar.
Oh, on va s'intéresser à la sécheresse qui frappe durement et précocement de nombreuses régions. Et puis juste après, on va aller se balader dans les allées du salon itinérant du vintage.
Oui, le rétro n'a jamais été aussi tendance. Le tourne-disque retrouve sa place sur le buffet années 70. On ressort les chaises en vinyle rouge. Les jeux d'arcade, les flippers, vous vous rappelez des consoles de jeux vidéo Tiger, la force est dans ta poche, non, ça veut dire. Voilà, c'est l'ancêtre de la console portable, c'était avant la Game Boy. Voilà,
ah, d'accord.
Trop jeune. Sans oublier les pattes d'eff et le crop top, à nouveau victime de la mode. Est-ce que le kitsch est forcément dans le coup ? On posera la question à Laurent Journeau, le fondateur du salon du vintage, dans un quart d'heure.
Et puis on va aussi parler série avant 6h.
Avec la deuxième saison de la série politique et comique qui s'appelle Parlement, c'est le choix de Marie Jiquel.
Mais avant la météo, avec le retour d'Anissa Haddadi, et à part quelques grisailles, le soleil va très vite briller.
Oui, on a une très belle journée qui s'annonce et ça va être comme ça plusieurs jours. Hein. C'est vrai que là, on est en train de rentrer dans ce qui s'appelle peut-être un été très en avance, hein, on va dire ça comme ça. Alors, écoutez bien ce matin, si vous baladez ou si vous êtes en voiture déjà pour aller au travail, du côté des vallées normandes, entre les Landes et le Pays Basque, et puis dans le Var. Voilà, c'est là que nous avons ces fameuses plaques de grisaille dont vous parliez, Julien. Des nuages bas qui, par endroits, peuvent gêner la circulation. Ça va très vite se dissiper, hein, partout ailleurs. Dès le lever du jour, le soleil va briller. Cet après-midi, on a un soleil radieux, quelques entrées maritimes qui résistent sur les côtes landaises. Mais c'est en montagne que le temps va nettement se dégrader, un temps instable sur les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, le Jura, la Corse. Où sur tous ces reliefs, nous allons avoir des orages qui éclatent avec des pluies, parfois quelques petits coups de vent, et ces pluies pourront déborder de temps en temps en plaine. Voilà, donc si vous habitez près des reliefs, ça peut être agité cet après-midi. On a actuellement à 5h30 6 degrés à Guéret, déjà 8 degrés à Bergerac, 9 pour Évreux, 12 à Paris, 13 sur l'île de Groix et 16 à Perpignan. C'est très doux et cet après-midi, ça va commencer à grimper. Il faut savoir que dans les jours prochains, ça va être encore plus chaud. 20 degrés pour Ajaccio et Dunkerque, le grand écart en France. 22 à Brest et Bastia, 25 pour Marseille et Lille, 26 à Paris, 27 pour Nantes, 28 prévu à Bordeaux, jusqu'à 29 du côté du Médoc. Ça va être très très chaud, notamment en Gironde.
Merci beaucoup Anissa Haddadi pour cette météo complète. Je vous souhaite à tous un excellent réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
On a souvent ça, mais plutôt pendant l'été, vraiment au mois de juillet, au mois d'août, quand il n'y a pas beaucoup d'eau et puis qu'il fait très chaud, très sec. Mais là, ça arrive un peu tôt.
Sec, désespérément sec, le constate cet agriculteur du Pas-de-Calais, dont les champs manquent désespérément d'eau. La sécheresse est déjà bien installée dans une quinzaine de départements. Les célébrations du 9 mai en Russie, grand défilé militaire attendu à Moscou à l'occasion des célébrations de la capitulation de l'Allemagne nazie face aux alliés. Guerre en Ukraine oblige, Vladimir Poutine veut en faire une démonstration de force. Et puis la 36e journée de Ligue 1 de football, Marseille bat Lorient et reprend la deuxième place au classement. Nantes, de son côté, vainqueur de la Coupe de France, s'interroge sur la suite.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. On vient de l'entendre avec la météo d'Anissa Haddadi. Une grande douceur s'installe sur la France. Un parfum d'été avant l'heure, mais une catastrophe pour les cultures. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes passé à proximité d'un champ. Les terres sont sèches, dures comme la pierre, faute de pluie. Et chez les agriculteurs, l'heure est à l'inquiétude, comme a pu le constater Maximilien Carlier avec cet exploitant du Pas-de-Calais. Reportage.
Hervé Lingrand est accroupi dans son champ où il veut faire pousser du maïs. Il creuse dans la terre avec son couteau.
Il faut gratter quelques centimètres pour obtenir de l'humidité.
Ça ressemble plutôt à de la cendre qu'à de la terre, quoi. D'habitude, ici, une année entre guillemets normale, ça collerait aux chaussures, qu'aujourd'hui, bah, vous êtes quasiment en basket, et moi aussi, et ça se passe très bien.
Pas besoin d'enfiler les bottes non plus pour se rendre dans ces cultures de betteraves, juste à côté. Sur place, le sol est craquelé avec des fissures importantes.
Je passe pas encore la main, mais le petit doigt, il rentre jusqu'à la deuxième phalange, quoi. On a souvent ça, mais plutôt pendant l'été, vraiment au mois de juillet, au mois d'août, quand il n'y a pas beaucoup d'eau et puis qu'il fait très chaud, très sec, mais là, ça arrive un peu tôt.
Tout ça à cause du manque de pluie. D'ailleurs, cet exploitant agricole observe inquiet les données de son pluviomètre sur un mois.
Bah, 30 jours, on voit qu'il est tombé à vue de nez 3 mm. 3 mm, sachant que dans la région, un mois d'avril, entre guillemets, normal, c'est entre 30 et 40.
Soit 10 fois plus, on a ici une météo comme à Marseille, explique-t-il un peu dépité. Sauf que là-bas, il ne cultive pas de betteraves et peu de maïs. Le Forêt, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et j'ajoute qu'une quinzaine de départements ont déjà pris des mesures de restriction d'eau potable.
Nous sommes le lundi 9 mai et Moscou s'apprête à célébrer le jour de la victoire.
Date symbolique de la capitulation de l'Allemagne nazie face aux alliés. Grand défilé militaire prévu comme chaque année à Moscou sur la place Rouge. Mais le contexte de la guerre en Ukraine lui donne un relief particulier. Une victoire tout de suite et à tout prix. Vladimir Poutine perd patience et sur le terrain, son armée multiplie les offensives brutales, notamment dans le Donbass, Guillaume Dominguez.
Oui, cela fait trois jours que frappes d'artillerie et aviation écrasent le Donbass. Avec ce drame, dans la nuit de samedi à dimanche, un largage aérien a touché une école dans la région de Lugansk. Hier soir, Volodymyr Zelensky a annoncé la mort des 60 civils coincés sous les décombres.
Ils se protégeaient des bombardements dans le bâtiment d'une école ordinaire qui a été attaquée par une frappe aérienne russe. Agir ainsi, c'est imiter précisément le mal que les nazis ont fait à l'Europe.
Plus au sud, les derniers combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal de Mariupol ont quant à eux annoncé hier que capituler n'était pas une option.
Ces deux derniers mois, nous avons montré au monde ce que c'était de faire l'impossible. Notre objectif, c'est de défendre nos positions. Et nous pouvons encore continuer à le faire. Nous, tous les militaires de la garnison de Mariupol, nous avons été témoins de crimes de guerre commis par la Russie, par l'armée russe.
Des crimes de guerre qui, selon Kiev, auraient coûté la vie à plus de 20 000 civils à Mariupol depuis le début du conflit.
Guillaume Dominguez, l'ombre de cette guerre en Ukraine planera aujourd'hui au-dessus de Strasbourg. Emmanuel Macron s'adressera au Parlement européen. Discours du chef de l'État et président du Conseil de l'Union avant une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin.
L'Europe qui d'ailleurs peine toujours à s'accorder sur de nouvelles sanctions contre Moscou.
Et c'est surtout la question du pétrole qui divise les 27. La Hongrie bloque le processus, mais un diplomate européen l'assure. Les discussions vont se poursuivre cette semaine. Au niveau du G7, l'embargo est acté sous forme de promesse. Les pays membres s'engagent à supprimer progressivement l'importation de pétrole russe.
Épilogue judiciaire attendu aujourd'hui dans l'affaire Pénélope Fillon.
La cour d'appel de Paris rendra son jugement à 13h30. François Fillon et Pénélope Fillon et son ancien suppléant à l'Assemblée, Marc Joulot, seront fixés sur leur sort. Ils sont poursuivis pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire dite du Pénélope Gate. L'épouse de l'ancien Premier ministre est accusée d'avoir bénéficié d'un emploi fictif. Gladys Laffitte, on se souvient que le parquet avait réclamé les mêmes peines qu'en première instance.
Oui, 5 ans de prison, dont un ferme pour François Fillon. C'est un peu moins lourd que lors du premier procès. Il avait été condamné à 5 ans, dont 2 fermes. À chaque fois, assorti d'une amende de 375 000 euros et de 10 ans d'inéligibilité. L'idée, ensuite, c'est d'aménager la partie de prison ferme sous bracelet électronique. Contre Pénélope Fillon, 2 ans avec sursis ont été demandés et 3 ans avec sursis contre Marc Joulot. Pour les avocats généraux, Pénélope Fillon a exercé une activité impalpable, évanescente, pour ne pas dire vaporeuse, dont on ne trouve pas de traces. Il n'y a pas d'archivage possible sans archives, a lancé l'un des magistrats à l'audience. Comme lors du premier procès, François Fillon a défendu une activité discrète, immatérielle de sa femme, mais essentielle selon lui. Il est resté sur sa ligne de défense, même s'il a exprimé des regrets. Les avocats de la défense avaient plaidé la relaxe pour les 3 prévenus.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Autre procès très attendu, celui de la Yemenia Airways, poursuivi pour homicides et blessures involontaires. 13 ans après l'accident qui a coûté la vie à 152 personnes tuées dans le crash d'un avion au large des Comores. Une seule rescapée, une adolescente de 12 ans repêchée en mer.
On passe au foot. La 36e journée de Ligue 1 sourit aux Marseillais.
La victoire de l'OM 3-0 sur Lorient hier soir. Marseille remonte à la deuxième place mais perd 4 joueurs importants de son effectif, sortis sur blessure. Rien ne va plus à Lyon, battu 3-2 par Metz. Match nul du PSG, 2 partout face à 3.
Et Nantes jouera mercredi face à Rennes. Match décalé comme pour les Niçois puisque les Canaries disputaient la finale de la Coupe de France samedi soir. Des Nantais qui on fait la fête tout en réfléchissant à la suite.
Hein. Oui, quatrième victoire en Coupe de France face à Nice, célébrée dans les rues de Nantes et à la Beaujoire hier après-midi. Les Canaries espèrent bien que ce succès ne restera pas sans lendemain. Reportage à Nantes, Charles Guyard.
Célébrés par des milliers de personnes hier dans les rues de Nantes, les vainqueurs de la Coupe de France n'ont pas seulement ramené le premier trophée dans la ville depuis plus de deux décennies, ils ont surtout gonflé l'optimisme des supporters qui, comme Paul Isidore, espèrent que ce succès va ouvrir de nouvelles perspectives à leur club de cœur.
Honnêtement, j'aimerais bien que ça les donne envie d'aller encore un peu plus haut. Le centre de formation est toujours bon, donc on aura toujours des petites pépites.
Un nouveau centre de formation est d'ailleurs en projet, un centre plus grand conformément aux souhaits de Valdemar Quita, le président du club, qui visiblement se sent à l'étroit.
Mais on est obligé de monter en puissance.
Une obligation due notamment au nouveau statut des Canaries, comme l'a reconnu le milieu de terrain Samuel Moutoussamy.
Le club va changer de dimension maintenant qu'on a un club européen, on va essayer de se mesurer à ce qui se fait de mieux.
Reste à s'habituer aux subtilités des joutes continentales, car pour Valdemar Quita, finalement, l'Europa League est encore un univers inconnu.
Donc on va avoir un minimum, je crois, 4 matchs chez nous. 6-3-3, voilà.
Et en attendant, il faut déjà terminer la saison avec la venue de Rennes dès ce mercredi, un derby à la Beaujoire, durant lequel les Nantais se feront un malin plaisir d'exhiber leur Coupe de France sous les yeux de leurs rivaux. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
La Formule 1, victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Miami devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Le monégasque conserve la tête du classement pilote, mais le néerlandais revient à moins de 20 points. Et puis il se pose en grand favori du prochain Roland-Garros qui commence dans une semaine et dont Europe 1 est la radio officielle. L'Espagnol Carlos Alcaraz remporte le Masters 1000 de tennis de Madrid, victoire en deux manches sur Alexander Zverev.
Très impressionnant ce tout jeune Espagnol de 18 ans. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet à présent avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Compiègne que va se courir ce quintet à handicap au féminin sur la distance de 1800 mètres qui réunira 16 juments âgés de 4 à 6 ans avec une solide favorite, le numéro 2, Susus Dimple, déjà gagnante sur le parcours qui nous intéresse et sa parfaite condition physique ne fait aucun doute, comme le prouvent ses deux dernières tentatives à Chantilly les 9 et 22 mars. Je sais qu'elle a depuis été ménagée en vue de cet objectif. On lui opposera les numéros 3 Kimina, 12 Pingo, 6 Nottingham et 9 Hénouville, classés respectivement 2e, 3e, 4e et 5e d'un quintet similaire le 12 avril à Fontainebleau, tous très près les unes des autres, avec Shanna Rose, le numéro 16, 7e ce jour-là et qui n'avait vraiment pas eu toutes ses aises dans la phase finale. Enfin, les numéros 13, Mexican Dream et 10, Rosine Bloom, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 3, 12, 6, 9, 16, 13 et 10.
Des pronostics que vous retrouvez sur europe1.fr, évidemment. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où, à présent, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et la foire de Paris se termine aujourd'hui. Et avec elle, le concours L'épine des inventions qui sera décerné comme chaque année. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Alors, le concours L'épine est comme un rituel avec chaque année les toutes dernières inventions des Géo trouve tout. Et dans les archives d'Europe 1, vous avez retrouvé des inventions particulièrement insolites.
Oui, comme le concours L'épine de l'année 1962.
Cherchez-vous un chauffage pour votre cyclomoteur, une échelle à grimper dans les coins. Cherchez-vous un truc, une trouvaille, qui vous servira ou qui ne vous servira pas. Tout cela est ici.
En 1966 est présenté un système empêchant les enfants de faire pipi au lit.
Cet appareil est conçu par deux électrodes et deux éponges pressées. Les deux éponges sont conçues dans un bigoudi. Au premier contact de l'humidité, l'éponge gonfle et forme le contact qui déclenche une sonnerie. Le bébé est réveillé et va faire pipi.
Vous ne voyez pas que c'est un peu cruel ?
Non.
Voilà une méthode qui semble radicale. L'appareil est présent à l'époque dans les cliniques d'accouchement, explique alors son inventeur.
Bon. Au concours L'épine, il y a toujours un jury, Laure, qui note les inventions.
Oui, chercheurs, médecins, professeurs et bénévolement, ils évaluent ici le travail des inventeurs. Plus les années passent, plus les inventions sont sophistiquées. Elles permettent de changer parfois la vie d'une personne, comme en 2006, cette machine à parler créée par ce père de famille qui voulait aider sa fille muette. C'est un boîtier portatif que Fabrice Leblat a mis 10 ans à concevoir. Il est interviewé par Lionel Gougelot.
Je suis la machine à
parler.
Alors c'est ça l'invention, d'avoir réussi à mettre, je veux dire, la langue française sur un minimum de touches. C'est-à-dire, en fait, donc vous avez le clavier devant vous, 60 touches, et qui vous permettent de restituer instantanément le son. C'est une véritable voix. Et donc cette machine-là permettra aujourd'hui de pouvoir communiquer un petit peu plus humainement qu'avec, je veux dire, une ardoise.
Le concours Lépine a connu ses heures de gloire pendant l'entre-deux-guerres. C'était le grand événement des années 20-30, raconte l'écrivain Sven Ortoli dans l'émission Au cœur de l'histoire de Franck Ferrand en 2011.
C'est la période la plus flamboyante, c'est le grand feu d'artifice entre les deux guerres, avant la deuxième guerre, où on croit encore qu'on va pouvoir échapper d'ailleurs à la guerre. Mais par le progrès.
Et cette année a lieu la 121e édition du concours Lépine.
Merci beaucoup Laure d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, après la foire de Paris et son concours Lépine, d'autres trouvailles dans les allées du salon du vintage.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h43 sur Europe 1, excellent début de matinée. Vous avez peut-être récemment fait l'acquisition d'une platine vinyle, d'une machine à écrire ou d'un meuble de cuisine en formica. Et vous avez eu bien raison, car les objets démodés peuvent redevenir tendance, comme ce week-end l'a prouvé du côté d'Annecy en Haute-Savoie, où s'est tenu le salon du vintage. Salon qui sera le week-end prochain à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. On en parle, Omblin, avec le fondateur du salon du vintage.
Bonjour Laurent Journeau.
Bonjour Blin.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez signé le livre Passion Vintage aux éditions de La Martinière. Et puis les téléspectateurs de l'émission Affaires conclues sur France 2 vous connaissent bien puisque vous faites partie des acheteurs. Alors pour commencer et pour savoir de quoi on parle exactement, Laurent Journeau, comment définiriez-vous le vintage ?
Alors moi j'aime bien dire que le vintage est une pièce qui a au moins 20 ans d'âge. Vous voyez, vintage, 20 ans. Et qui en fait représente une partie de design, c'est-à-dire une période de design ou bien la patte de son créateur. Donc vraiment très marqué par la signature d'un créateur connu, soit en mode, soit en mobilier, soit en divers accessoires et objets.
Oui, ça peut être des petits objets qui échappent en gros à la standardisation, c'est ça, des grandes usines.
Oui, exactement. Mais c'est vrai que moi, je vois dans mes salons du vintage vraiment un essor fou, une croissance folle et surtout des acheteurs de toute génération, voilà, qui refusent justement cette uniformisation à la fois dans les grandes chaînes de consommation de fast fashion, hein, évidemment, et puis également tout ce qui est en décoration ou mobilier pour pas avoir finalement le même mobilier que son voisin.
Donc en fait, un objet ancien n'est pas forcément vintage.
Oui, parce que c'est vrai que souvent, on propose d'acheter des objets voilà, qui sont juste de vieux objets et qui ne sont pas particulièrement iconiques ou tout simplement qui n'étaient pas particulièrement beaux à l'époque et qui ne restent et qui ne le sont toujours pas. Vous voyez, et par contre, c'est vrai que l'inverse est vrai. Ce qui était beau, cher et rare à l'époque reste beau, cher et rare aujourd'hui.
Il existe quand même des objets désuets, hein, vous venez quand même le préciser, peut-être une catégorie ou des catégories d'objets qui ne connaîtront jamais une seconde vie. Mon horloge comtoise, par exemple. Mon bidet, ça va pas me revenir.
Voilà, exactement. C'est pas parce que c'est vieux que c'est vintage et puis que ça a du charme. Alors, voyez, il y a une autre règle aussi, c'est éviter la réédition de ces objets. C'est-à-dire qu'un objet qui a de la valeur dans le vintage, c'est un objet qui n'a pas été réédité. Parce que c'est vrai que, voilà, on peut trouver chez des grands éditeurs aujourd'hui de mobilier, des éditions de mobilier qui n'ont cessé d'être édités. Et là, ce sont des produits qui ne prendront pas de valeur.
C'est intéressant ce que vous dites, puisque les marques aujourd'hui sortent beaucoup sur la tendance du vintage. Elles se mettre à rééditer d'anciens modèles. On va avoir par exemple des objets électroniques anciens comme des vieilles radios, mais à l'intérieur on aura mis un transistor récent avec un émetteur Bluetooth. Ça, c'est quoi alors ? C'est pas du vintage, c'est le look.
Ce qu'on appelle le néo-vintage, c'est-à-dire c'est un look ancien avec une technologie actuelle. On l'a vu évidemment dans les voitures avec évidemment les grands succès que l'on connaît, que ce soit la Fiat 500, pour ne citer qu'elle, ou la Mini, avec des looks rétro, mais une technologie actuelle. Ça, c'est pas du vintage, c'est ce qu'on appelle du néo-vintage, du néo-rétro. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà, c'est pas exactement du vintage.
Oui, c'est pas forcément ce qu'on recherche aussi. Vous avez lancé en 2008 le premier salon du vintage. L'engouement a-t-il été immédiat ?
L'engouement a été immédiat. Et c'est vrai que ces dernières années, je dois vous avouer que le côté à la fois économie circulaire, c'est-à-dire remettre dans le système finalement de consommation des produits qui ont déjà utilisé leur empreinte carbone, ça plaît à tout le monde. Et puis il y a l'aspect évidemment nostalgique et évidemment, comme on le disait tout à l'heure, le côté esthétique, parce que finalement, ben voilà, on n'a pas envie d'avoir de s'habiller comme son voisin ou d'avoir voilà, le même mobilier que son voisin.
On a toujours aimé chiner, hein, les brocantes, les vide-greniers existent depuis longtemps et la tendance aujourd'hui est plus importante. Il y en a de plus en plus. Est-ce que vous constatez, vous, dans vos salons aussi?
Oui, c'est vraiment toutes les générations qui sont touchées par le vintage, peut-être presque plus les nouvelles générations qui veulent s'approprier des images d'un passé fantasmé. Vous voyez, le fameux « c'était mieux avant ». Alors, c'était mieux avant, moi, je ne sais pas si c'était mieux avant. Mais en tous les cas, voilà, comme leurs parents leur ont dit que c'était mieux avant, bah, finalement, ils s'accaparent tous les objets et ils s'habillent finalement comme pouvaient s'habiller leurs parents. Et on le voit bien là aujourd'hui avec, par exemple, les millénials qui s'habillent un petit peu comme dans les années 80 ou 90. Il faut dire qu'aujourd'hui, même les trentenaires ont un passé des années 90 où on a bien vu revenir, là, ces derniers temps, les jeans taille haute, les croc-tops. On s'habille un peu comme les Spice Girls, finalement.
Est-ce que vous dites, en fait, c'est que la nostalgie se transmet et les enfants vont se mettre à jouer avec la Super Nintendo de leurs parents?
Exactement. Et on a vu, par exemple, le grand retour des cassettes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, un album sort non seulement maintenant en vinyle, mais aussi en cassette. Vous savez, les fameuses cassettes qu'on rembobinait avec un stylo. Mais surtout en vinyle, parce que le vinyle, faut dire aussi que c'est un très très bel objet. Vous voyez, c'est pas simplement j'appuie sur une playlist, c'est je vais, il y a un geste, il y a je vais à la platine, je mets la face A, je mets la face B, et puis ce petit grésillement qui fait tout son charme, évidemment.
Concernant le prix, un objet vintage est-il forcément cher?
En fait, il y a vraiment deux types d'objets. Il y a par exemple un fauteuil Tam Tam. Vous voyez ce que c'est, les fauteuils Tam Tam, ils ont été édités à plus de 10 millions d'exemplaires. Donc voilà, c'est des objets qui, eux, voilà, vont pas prendre beaucoup de valeur. Par contre, voilà, des objets signés de grands designers. Voilà, moi, je sais que j'aime beaucoup le mobilier italien, ou comme Joe Colombo, par exemple. Vous voyez, bah, ça, évidemment, ça va être amené à prendre de la valeur. Donc, il faut vraiment aller, si on cherche à acheter du vintage et à faire de l'argent avec ça, il faut vraiment aller sur des pièces qui ne sont pas rééditées et qui ont peu de chances d'être rééditées et qui sont signées par des gens qui sont connus ou qui ont été connus.
Qu'est-ce qui est particulièrement recherché aujourd'hui, notamment dans vos salons? Ce sont plutôt des meubles, des vêtements? La friperie fonctionne bien? Ou des objets? Ou des... la vaisselle?
Alors moi j'aime bien être transversal à la fois sur le vintage, c'est-à-dire que dans mes salons on trouve à la fois de la mode de luxe mais également de la free, puisque on en parlait aussi, les jeunes générations n'ont pas forcément des milliers d'euros et veulent s'acheter une petite fripe, les vinyles évidemment, et puis les automobiles classiques et le mobilier. Donc ça fait vraiment partie de l'univers, en tout cas en ce qui concerne mes salons, de l'univers vintage, pour en avoir, voilà, pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Merci beaucoup Laurent Journeau d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le fondateur du salon du vintage, et le prochain aura lieu à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer le week-end qui arrive, les 14 et 15 mai. Rendez-vous ensuite à Lyon à la rentrée, les 24 et 25 septembre, à Paris 15 et 16 octobre, et puis aussi à Clermont-Ferrand, à Rennes l'automne prochain. Merci, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité avec Johan Fritz.
C'est jour de fête nationale en Russie. Le pays commémore aujourd'hui sa victoire sur l'Allemagne nazie il y a 77 ans. L'occasion pour Vladimir Poutine de faire démonstration de sa puissance au monde entier. Son discours pendant le défilé est très attendu. En face, l'Europe répond. Emmanuel Macron va s'envoler pour l'Allemagne et Berlin pour son premier déplacement européen. Il y rencontrera le chancelier Olaf Scholz pour une photo d'union du couple franco-allemand. L'Occident qui a pris de nouvelles mesures de restriction contre la Russie. Le G7 s'est engagé lors d'un sommet hier à réduire puis supprimer les importations de pétrole russe. Le 9 mai, c'est aussi un grand jour pour les livreurs et les VTC. Aujourd'hui ont lieu les premières élections professionnelles du secteur.
Le lundi 9 mai, c'est le jour de la victoire en Russie. C'est aussi le jour où on parle série sur Europe 1.
Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Julien et Omblin, bonjour à tous.
Bonjour Marie, en ce lundi 9 mai, journée de l'Europe également, vous nous parlez de cette série politique et surtout comique, Parlement. La première saison diffusée au printemps 2020 va réunir un large public. Place désormais à la seconde saison avec les mêmes personnages.
Et oui, on est heureux de retrouver notre anti-héros Samy, interprété par Xavier Lacaille. Cet assistant parlementaire débutant, un brin gaffeur, un brin benet dans la saison 1. Bien depuis, Samy a mûri, il nous revient plus filou, les dédales du Parlement n'ont plus de secret pour lui.
Tu as deux types de députés, les psychopathes et les imbéciles.
Tu sais, la politique c'est aussi la hiérarchie des combats.
Ça veut dire quoi ?
La première saison relatait le parcours initiatique de Samy qui découvrait une institution où la paresse et l'inaction règnent. Saison 2, le voici toujours auprès de son député centriste Michel Spéclin, surnommé l'homme rougeau par ses collègues, joué par l'excellent Philippe Duquesne, attachant mais très fainéant.
Et on peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit?
Non, ça, on peut pas faire.
Mais pourquoi?
Bon, ça fait 3 ans que je suis ici. C'est pas maintenant que je vais demander comment ça marche.
Bon, alors face à tant d'énergie, Samy va se rapprocher d'une autre eurodéputée.
Plus jeune, tout aussi fantasque et, il faut bien le dire, incompétente, Valentine Cantel.
J'annonce quoi demain à la matinale?
The Blue Deal.
Qu'est-ce que c'est?
Vous avez compilé un ensemble de textes incohérents en y ajoutant un nom racoleur. C'est très malin, ça.
Voilà, vous l'avez compris, l'intrigue politique de cette saison porte sur les négociations d'un Blue Deal, une proposition sur la protection des océans en écho à notre Green Deal. En effet, il y a plusieurs clins d'œil aux vraies décisions prises. La série bénéficie de l'aide de 2 spécialistes du Parlement qui collaborent au scénario. Et puis, rassurez-vous, Ombline, Julien, on suit évidemment les tourments amoureux de Samy.
Alors, un ton plaisant, des personnages à la Gaston Lagaffe, des portraits de politiques selon les nationalités et surtout les coulisses d'une institution élitiste qui passe pour un cirque, Marie.
Et oui, du groupe WhatsApp des eurodéputés allemands aux cachettes derrière les fausses plantes, aux bourdes d'une équipe de bras cassés qui investit les bureaux, le Parlement passe pour tout, sauf une institution sérieuse. Alors les téléspectateurs peuvent compter sur une réalisation amusante, des scènes courtes et bien rythmées, des comédiens charmants et justes. Ça donne presque envie d'y travailler. Et enfin, pour la petite info, le tournage s'est déroulé l'été dernier au Parlement européen, celui de Strasbourg. Ce n'était pas le cas lors de la précédente saison.
Parlement, la saison 2 est à savourer dès aujourd'hui sur la plateforme gratuite France.tv. Et pour ceux qui veulent rattraper la première saison, eh bien, elle est diffusée sur France 5 dès ce soir à partir de 21h.
Merci Marie.
Beaucoup Marie.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h56, dans un instant, la météo, le journal et des bruits de bottes sur la place Rouge.
Oui, un important défilé militaire va avoir lieu dans la matinée à Moscou, car nous sommes le 9 mai, jour de la victoire des soviétiques sur les nazistes, une date très importante en Russie qui, dans le contexte actuel, celui de la guerre en Ukraine, a une toute autre résonance. Quelle sera la teneur du discours de Vladimir Poutine? Va-t-il intensifier l'escalade verbale et militaire, voire déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine et mettre fin à cette mascarade d'opération spéciale, entre guillemets? On en parle dans une dizaine de minutes avec Cyril Brett, grand spécialiste de la Russie, géopolitologue et enseignant à Sciences Po. Et puis juste après, on blinde votre partition.
Il décrit son Big Bazar ainsi, cette troupe idéale, je la vois composée de jeunes gens que le métier n'a pas déjà formaté, donc déformé.
Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance.
La troupe idéale, ça c'est le Big Bazar de Michel Fugain dans la partition. Dans 20 minutes.
Anissa Haddadi, ça va être aussi un peu le Big Bazar dans le ciel aujourd'hui avec soleil, orage et température en hausse au programme.
Oui, alors en fait, c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est la hausse des températures. Le soleil qui va briller de manière générale. Je vous ai parlé des orages parce que les orages, ils vont éclater en montagne. Ça sera vraiment en fin d'après-midi. Alors, cette journée, elle va beaucoup ressembler à celle d'hier en encore mieux. C'est-à-dire qu'hier, on avait pas mal de soleil sur l'ensemble du pays, ça va être encore le cas aujourd'hui. C'est du côté du thermomètre que nous allons avoir une évolution, puisque les températures vont gagner 2 à 4 degrés sur certaines villes. Attention tout de même ce matin aux grisailles. C'est vrai que le long des côtes de la Manche, sur le littoral landais, sur les côtes varoises, on a pas mal de grisailles ce matin. Ce sont des grisailles matinales, vous avez l'habitude, vous connaissez. Tout au long de la journée, le soleil brille, on a quelques passages nuageux. Ce sont des cumulus de beau temps, ces nuages d'altitude qui ne sont pas assez épais pour masquer le soleil. Donc rien vraiment d'inquiétant. Mais cet après-midi, je vous le disais, fin de journée, on va avoir près des montagnes, sur le massif central, les reliefs corses, alpins, pyrénéens, sur les reliefs jurassiens également, des orages qui se développent. Donc l'ambiance est assez instable avec pas mal de coups de tonnerre, pas beaucoup de pluie mais une activité électrique. 6 à 16 degrés ce matin du nord au sud et cet après-midi, on a plus de 20 degrés partout. 20 à Dunkerque et Ajaccio, 22 à Calvi, 24 pour Rouen, 26 à Paris, 27 à Nantes et 28 pour Bordeaux.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le lundi 9 mai. Il est 6h. De l'Ukraine au banc de l'école, après 2 mois et demi de guerre, les réfugiés ont refait leur vie chez nous, en France. Reportage en Moselle dans ce journal. Aspirant député, cherche financement. L'échec de Valérie Pécresse à la présidentielle pèse sur la campagne des Républicains. Explication à suivre. Et puis de la musique pour conclure ce journal. Camélia Jordana est en tournée dans toute la France. Nous l'avons suivi.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ils sont arrivés au début de la guerre. Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés ont refait leur vie dans l'Hexagone. Comme ces deux sœurs qui sont devenues enseignantes dans une école de Coin-sur-Seille et qu'a pu rencontrer Tatiana Gazelman pour Europe 1.
Pendant le cours de maths, Ola traduit les consignes pour ses deux élèves du jour, Solomia et Maxime. C'est en posant elle-même ses enfants à l'école qu'une enseignante a remarqué qu'elle parlait français. Alors quand le rectorat l'a appelée pour lui demander si elle pouvait prêter main forte, elle n'a pas hésité.
Je suis habituée de travailler et je suis heureuse de faire quelque chose pour mes compatriotes ici en France.
Ola jongle entre 5 écoles différentes pour s'occuper d'une douzaine de jeunes Ukrainiens, comme Solomia, arrivée il y a 2 mois.
J'aime travailler avec Ola parce que ça m'aide beaucoup pour apprendre le français.
Un soulagement aussi pour son institutrice, Pauline Bontemps, qui jusqu'à maintenant se débrouillait avec l'anglais.
C'est sûr que c'est d'une grande aide. Au début, faire de l'histoire, de la géographie, c'était forcément trop compliqué au niveau du lexique. Maintenant, on a pris nos marques.
Au total, près de 10 000 enfants ukrainiens sont actuellement scolarisés en France. Coin-sur-Seille, Tatiana Geiselman, Europe 1.
Une note positive alors que sur place, en Ukraine, les bombes russes continuent de pleuvoir.
Et c'est le cas notamment dans la région de Lugansk où Kiev annonce que 60 personnes ont été tuées dans le bombardement d'une école. À Mariupol, les Ukrainiens retranchés, eux, refusent toujours de capituler.
L'armée russe, on comprend donc, a intensifié son offensive dans Donbass avant le défilé militaire tout à l'heure à Moscou.
Lequel célèbre la victoire contre l'Allemagne nazie. Et cette année, plus que jamais, c'est pour Vladimir Poutine une vaste opération de communication, une démonstration de force envoyée au monde pour exhiber son arsenal militaire. Et comme une réponse, Emmanuel Macron, lui, sera devant le Parlement européen à Strasbourg pour promouvoir sa vision d'une Europe puissance.
13 ans après le crash de la Yemenia Airways jugé en France.
Oui, 152 personnes avaient péri à l'issue de l'erreur du pilotage alors que l'avion était en phase d'atterrissage aux Comores. Ce procès était très attendu par les familles, dont beaucoup vivent à Marseille et qu'a pu suivre Stéphane Burgat.
Sur le mur du salon, une photo pour ne jamais oublier le sourire éclatant de cet adolescent de 17 ans.
C'est Youssouf, quand tout allait bien. Il partait en vacances pour un mois. Ça me hantera toujours, jusqu'à la fin de ma vie.
Ce 30 juin 2009, Marie Oumar a tout perdu. Son petit frère, mais également sa mère, Salia, qui se trouvait à bord du vol 626.
Je m'en souviens parce que c'est moi qui les ai ramenés à l'aéroport. On parle du voyage, mon frère était content pour les vacances. On parlait d'après parce qu'il devait passer son permis justement la même année. Il aurait eu 18 ans en décembre.
Après s'être lancé à corps perdu dans l'aide aux autres familles des victimes au sein d'une association, ce procès est pour elle l'instant de vérité qu'elle n'attendait plus.
Vous vous rendez compte, c'était depuis 2009, on est en 2022. Il y avait 152 passagers dans cet avion. Ils ne peuvent pas être morts pour rien comme ça. Il faut qu'ils soient condamnés. Une vraie sanction. Il faut qu'ils reconnaissent leur manquement. Ils n'ont pas reconnu qu'il s'est passé quelque chose. Ils ne nous ont même pas présenté les condoléances. Il n'y avait pas de cellule de crise. Il y avait un mépris. Pour eux, il fallait qu'on oublie. Ils disaient que nous, c'était le crash des pauvres.
Et Marie Oumar a bien prévu de se rendre à Paris pour suivre ce procès qui est prévu jusqu'au 2 juin prochain. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Justice toujours. Les époux Fillon, eux, seront fixés sur leur sort en début d'après-midi après les accusations de détournement de fonds publics. On parle de l'affaire des emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon.
6h passées de 3 minutes sur Europe 1. Le Rassemblement national lance sa campagne des législatives.
Après 2 semaines de silence, Marine Le Pen est entrée dans l'arène hier depuis son fief d'Hénin-Beaumont. Elle s'en est vertement pris à Jean-Luc Mélenchon qu'elle a qualifié de fou du roi pour avoir, selon elle, favorisé la réélection d'Emmanuel Macron.
Et chez les Républicains, difficile de retrouver un second souffle après le naufrage de Valérie Pécresse.
Oui, qui continue de rembourser son emprunt personnel. Alexandre Chauveau, ça fait un peu tache d'huile. Vous nous expliquez ce matin que les 543 candidats sont eux-mêmes confrontés à la frilosité des banques.
Oui, car une campagne coûte cher, entre 35 et 100 000 euros, et contraint la plupart des candidats à emprunter personnellement auprès des banques. Mais certains établissements se montrent plus frileux depuis la déroute subie par LR au premier tour de la présidentielle. Celle-ci interroge par ailleurs de nombreux candidats à droite sur leur chance de dépasser eux aussi les 5% et donc d'obtenir le remboursement de leurs frais de campagne. Remboursement qui, contrairement à la présidentielle, n'est pas intégral, mais représente 47,5% du plafond autorisé. Ce montant varie d'une circonscription à l'autre, mais s'élève en moyenne autour de 35 000 euros. L'autre difficulté, c'est qu'outre le financement du parti pour chaque candidat, 5 000 euros de la part du siège et quelques milliers d'euros des fédérations, la campagne de dons habituelle est quelque peu perturbée par celle de Valérie Pécresse, car la candidate a déjà frappé aux portes des principaux donateurs des Républicains, qui se montrent donc moins généreux pour les candidats aux législatives. Et si certains ont fait le choix de réduire la voilure de leur campagne, une vingtaine d'autres, initialement investis dans des circonscriptions difficilement gagnables, ont carrément jeté l'éponge.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Troisième option, rallier Emmanuel Macron comme Robin Reda qui tractait samedi encore pour les Républicains.
On termine en musique à présent avec Camélia Jordana.
Qui a un planning très chargé. La jeune chanteuse vient de débuter une grande tournée. Rencontre avec Naïma Benchemann.
Il ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile.
C'est avec son quatrième album Fragile X Facile que Camélia Jordana, auréolée d'un César et d'une victoire de la musique, sillonne actuellement les routes de France.
C'est très émouvant en fait de se retrouver tous les soirs face au public. J'avais envie de me retrouver dans des grandes salles avec un public qui connaît les chansons et avec ces espèces de cérémonies comme ça, cet endroit qui existe entre le public et les artistes. C'est assez libérateur de pouvoir enfin présenter ce qu'on a préparé pendant des mois.
Et cette fois devant son public, la chanteuse a décidé d'assumer entièrement son côté pile et son côté face.
J'avais peur d'être frustrée, j'avais trop de choses à dire et j'avais pas envie de m'en priver. Je me suis dit ok, je vais revenir donc à mes premières amours, la pop musique. Puis en même temps, il y a d'autres chansons à côté, beaucoup plus intimistes. Elles sont le pendant d'une partie de cet album.
Camélia Jordana est parfois fragile, mais quand elle monte sur scène, être une femme libérée lui paraît si facile.
Silence, silence,
la voix suave de Camélia Jordana que vous pourrez retrouver le 11 mai prochain à l'Olympia ou au Havre le 12.
C'était le journal si facile de Lénaïque Monnier. Merci beaucoup Lénaïque.
6h07, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence Martin avec du foot. 3 qui tient tête aux champions de France.
Oui, les Stacks a ramené un très beau match nul hier du Parc des Princes. Score final 2-2 face à un PSG pas vraiment concerné. Les joueurs de Bruno Hirle étaient pourtant menés rapidement 2-0, mais ils ont trouvé les ressources pour revenir. L'attaquant Renaud Ripart.
Un super point, surtout on était mené 2-0 après 20 minutes, mais voilà, l'image de ce groupe, de cet état d'esprit, on n'a rien lâché et puis voilà, on a été récompensé. C'est super pour tout le monde. Ouais.
Avec ce nul, les Stacks 15e se rapprochent du maintien. Dans les autres matchs de la journée, l'OM a balayé Lorient 3-0 et repris sa deuxième place. Lyon a probablement dit adieu à l'Europe après sa défaite 3-2 à Metz. Enfin à Bordeaux, c'est sur la Ligue 1 qu'on a probablement fait une croix. Défaite 4-1 à Angers.
On passe au cyclisme et un Français proche de la victoire sur le Tour d'Italie.
Oui, Arnaud Démare termine 2e de la 3e étape de ce week-end inaugural du Giro en Hongrie. Le Picard a été devancé par l'increvable Mark Cavendish, 36 ans. Mais la forme est là pour le sprinter de la Groupama FDJ.
Forcément, il y a de la déception parce qu'on se dit qu'on peut gagner, quoi. Ça reste un départ convenable au niveau de l'équipe, une place de deux. Je suis quand même déçu, mais on s'en satisfait. Ouais.
Aujourd'hui, une journée de repos avant la première étape de montagne, demain sur l'Etna.
En bref, les autres résultats d'hier, Martin.
Du tennis avec la nouvelle terreur du circuit. Carlos Alcaraz a remporté hier le tournoi de Madrid. L'Espagnol de 19 ans a battu en 48 heures Nadal, Djokovic et Zverev. De la Formule 1 avec la victoire hier de Max Verstappen au Grand Prix de Miami. Le Néerlandais se rapproche de Charles Leclerc au classement des pilotes. Et puis un mot de rugby, il y aura 3 clubs français en demi-finale de la Coupe d'Europe. Hier, le Racing 92 a rejoint La Rochelle et Toulouse.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, je reçois Cyril Bret, grand spécialiste de la Russie, où l'on s'apprête à célébrer aujourd'hui le jour de la victoire. À tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po et spécialiste de la Russie.
Bonjour Cyril Bret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce lundi 9 mai, date importante pour les Russes. C'est le jour de la victoire, comme ils l'appellent, victoire des Soviétiques sur les nazis en 1945. Et c'est l'occasion, chaque année, d'un important défilé militaire sur la place Rouge à Moscou. Défilé qui, vu la guerre actuellement en Ukraine, sera particulièrement observé et peut-être un peu moins grandiose, un peu moins musclé que d'habitude, Cyril Brett.
Oui, le Dnepr Pobeda aura un défilé à Moscou, mais dans les principales villes russes également. Et en raison des activités des forces armées russes sur le territoire national et de l'invasion en Ukraine, effectivement, le dispositif risque d'être réduit, mais il n'en restera pas moins une démonstration de force et une célébration de la puissance militaire russe.
Cela va tout de même donner un contraste pour le moins radical, un choc d'image, c'est-à-dire que les Russes vont admirer aujourd'hui des chars d'assaut rutilants, les mêmes que l'on voit nous réduire en miettes les villes ukrainiennes ou se faire réduire en miettes. Ces images-là, les Russes, eux, ne les voient pas.
Ces images-là, les Russes ne les voient pas et ce qui importe pour eux aujourd'hui, c'est de commémorer le rôle exceptionnel de l'URSS dans la victoire contre l'Allemagne nazie et de commémorer la mémoire. Hein. 20 millions de morts depuis plusieurs jours maintenant en Russie. Ce qu'on appelle le régiment immortel est une cohorte mémorielle de civils qui célèbrent la mémoire des ancêtres. Et les Russes sont aujourd'hui plus focalisés sur la célébration de leur héritage que sur les informations exactes sur ce qui se passe en Ukraine.
Nazis qui, 77 ans après leur anéantissement, refont une apparition en force dans la propagande russe. Il n'était d'ailleurs question que de ça hier dans les vœux de Vladimir Poutine. Ils y croient vraiment à tout ça, les Russes ?
Ce qui est sûr, c'est que c'est un moyen pour le président russe de se légitimer, et cela depuis extrêmement longtemps, lorsqu'il s'est agi de célébrer la victoire, les 60 ans et puis les 70 ans de la victoire en 2005 et 2015. Encore une fois, la défaite et la lutte contre le nazisme a été un moyen de se retremper. Les Russes se sont aujourd'hui alimentés par des médias qui sont directement contrôlés par le gouvernement et n'ont pas de moyens alternatifs de s'informer. Et de toute façon, dans un pays en guerre, la Russie ne fait pas exception. Il y a un réflexe d'union nationale autour des dirigeants, d'autant plus que les Russes, dans les grandes villes, ressentent évidemment l'effet des sanctions contre eux. La situation économique est difficile.
Alors justement, une solidarité, vous parlez de dirigeants. Vladimir Poutine va prononcer un discours à l'issue de ce défilé, discours qui va être très écouté dans toutes les capitales occidentales, car on redoute une nouvelle escalade verbale, voire une déclaration de guerre à l'Ukraine en bonne et due forme. Ça vous paraît crédible ?
Écoutez, Vladimir Poutine a l'habitude de nous surprendre. Je n'attends pas, moi, de déclaration de guerre, dans la mesure où, dans toutes les guerres qu'il a menées, Vladimir Poutine ne s'embarrasse pas de cette formalité juridique. Aujourd'hui, ce qui tient lieu de déclaration de guerre, c'est le communiqué du 24 février prétendant éradiquer le nazisme de l'Ukraine et obtenir un nouveau statut international pour l'Ukraine. Je redoute malheureusement un nouvel élan dans l'effort militaire dont les victimes ukrainiennes vont faire les frais, dans la mesure où ce qui arrêtera Vladimir Poutine, c'est uniquement d'avoir remporté une victoire indiscutable.
Mais est-ce qu'une déclaration de guerre lui permettrait pas notamment d'annoncer une mobilisation générale ? Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en ce sens à Moscou depuis quelques jours.
Écoutez, nous verrons bien la mobilisation de l'appareil militaire, économique, technologique, médiatique et politique en Russie est déjà maximale. Et il faut bien voir que si Vladimir Poutine passe un cran dans la mobilisation de son pays, il va encore prendre plus de risques puisqu'il n'a pas réussi à obtenir la victoire. Donc d'un côté, mobiliser encore plus largement et de l'autre côté, ne pas parvenir à obtenir une victoire l'expose d'autant plus. Nous verrons bien et de toute façon, je pense que ce discours sera marqué par une grande agressivité et hostilité à l'égard des Occidentaux et évidemment de l'Ukraine.
Cyril Brett, le G7 dont fait partie la France et l'Allemagne a annoncé hier mettre fin progressivement aux importations de pétrole russe. Est-ce que ça pourrait changer la donne, sachant que les 27 pays de l'UE ont depuis le début de l'invasion versé tout de même 23 milliards de dollars à Moscou pour son pétrole ?
Oui. Alors, ça ne changera pas la donne à court terme. La Russie dispose d'importantes réserves de change et peut financer son effort de guerre encore pour de longs mois. Ça changera la donne, et ça changera la donne pour la Russie, pour les Occidentaux, à moyen et long terme, dans la mesure où ça va recomposer des relations économiques, des interdépendances stratégiques qui ont plusieurs décennies. Hein, ces contrats d'hydrocarbures datent depuis bien plus longtemps. Donc je pense que à court terme, ça ne changera pas la face des combats et ça ne changera malheureusement pas la vie des civils ukrainiens. Mais à long terme, c'est bien une recomposition stratégique sur tout notre continent et notamment sur les relations entre l'Union européenne et la Russie qui est en train de se réaliser sous nos yeux.
Merci beaucoup Cyril Brett d'avoir répondu et de nous avoir éclairé ce matin. Je donne le titre de votre dernier livre, 10 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au 21e siècle. C'est chez Armand Collin. Très bonne journée à vous.
Merci.
Dans un instant sur Europe 1, la partition de Michel Fugain.
On termine avec votre partition, Ombline. Il fêtera ce jeudi ses 80 ans sur la scène de Bobino à Paris avec un spectacle qui s'appelle Michel Fugain fait bande à part. Mais ce matin, sur Europe 1, le chanteur est bel et bien entouré de toute sa troupe.
Oui, de sa troupe, Julien. C'est bien ainsi qu'il faut présenter le Big Bazar de Michel Fugain. Non pas un groupe, mais une réunion hétéroclite de personnalités. Un vrai bazar humain où chaque membre ne ressemble à aucun autre. Des amateurs, chanteurs, danseurs, acrobates devenus professionnels.
Attention mesdames et messieurs, c'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps.
La belle histoire de Big Bazar commence au début de l'année 1971.
Michel Fugain est passionné de théâtre, de cinéma, de chant, de danse. À peine entré dans l'âge adulte, il choisit la vie d'artiste et monte à Paris. Il passe ses premières années à composer pour d'autres, rencontre son premier succès avec « Je n'aurai pas le temps ». Invité à participer à une émission télévisée en Allemagne, il découvre sur le plateau un groupe d'une dizaine de chanteurs, les Humphries Singers. L'idée de créer sa propre troupe musicale devient alors une évidence.
Et pour mettre sur pied sa joyeuse formation, des centaines d'auditions d'artistes sont organisées.
Et pour n'en garder finalement que quelques-uns, une dizaine de musiciens et une quinzaine de danseurs et de chanteurs, parmi lesquels Stéphanie, la future femme de Michel Fugain. Big Bazar devient une communauté qui marche dans les pas de la génération hippie. Les cheveux sont longs, les fleurs sont brodées sur les costumes et les idéaux sont nourris par le mouvement Peace and Love américain. Ils chantent, jouent, vivent ensemble et ici en France, ce Big Bazar bouleverse les codes de la chanson populaire.
Ces nouveaux artistes du Big Bazar sont accueillis par le directeur de l'Olympia.
Bruno Cocatrix leur donne l'autorisation de répéter au quatrième étage sous les combles de la mythique salle de spectacle parisienne. Et quand viendra le moment de se produire en public, eh bien Michel Fugain et sa bande n'auront qu'à descendre quelques marches.
Et en attendant, il leur faut des chansons. Lorsque Michel Fugain vient voir le parolier Pierre Delanoë avec une nouvelle mélodie, il imagine un road movie sur la route 66.
Oui, mais voilà, la route 66 ne plaît pas vraiment à Pierre Delanoë, qui occupe d'ailleurs à ce moment-là, à nouveau, le bureau du directeur des programmes d'Europe 1. La route 66, donc, ne connaît pas. En revanche, la Nationale 7, la route des vacances, ça lui parle à Pierre Delanoë. Michel Fugain range dans un tiroir son rêve américain et accepte la version avec le brouillard et le midi de la France. La chanson va grimper petit à petit dans le hit parade tout au long de l'été 1972. Le chanteur parti faire le tour de Corse en bateau avec son Big Bazar va se rendre compte de l'ampleur du succès plusieurs jours plus tard, une fois rentré au port.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain ? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie. commençait. Il n'était encore que des enfants qui s'étaient.
La belle histoire de Michel Fugain et son Big Bazar en 1972. Fugain fera bande à part pour fêter ses 80 ans jeudi soir sur la scène de Bobino à Paris. Il prépare une nouvelle tournée pour le début de l'année prochaine.
Increvable, Michel Fugain. Merci beaucoup, Ombline. Vous restez avec nous dans un instant. La matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin, 6h27, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
Et on vous retrouve demain à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.